bonheur! À l'assassin! Au meurtrier! Justice, juste ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné!
En aparté,
en aparté! En aparté, l'émission culturelle et artistique sur Radio Campus Amiens.
Aujourd'hui, dans cette émission, je vous propose de redécouvrir ou de découvrir l'interview de la compagnie Iéna sur le spectacle Burnout. Cette compagnie est actuellement en résidence pour une durée de 3 ans à l'espace culturel Pablo Picasso à Longo et ils reprennent donc deux spectacles. Burnout que vous pouvez découvrir donc demain, 10 janvier, à 14h et 20h30 et presque égal à, donc leur deuxième spectacle, qui celui-là sera représenté le 17 janvier à 14h et 20h30. Je vous laisse maintenant avec l'interview. Bonjour et bienvenue dans votre émission En Aparté. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 janvier. Et oui, ça y est, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier. Qu'est-ce que le temps passe vite ? C'est le dernier jour pour souhaiter la bonne année, alors profitez-en, après c'est fini. Mavi Canabadinga et Julien Gros, bonjour.
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 Comment allez-vous ?
Très bien, merci, et toi-même ? L'année bien, commence bien. Bien.
Ça va, avec un temps magnifique, chaud, tout va bien, tout va bien. Alors, vous êtes ici tous les deux pour nous parler de Burnout, une pièce d'Alexandra Badea, mise en scène par Karine Dederwarder. Donc, vous êtes ici pour nous parler de cette pièce, alors qu'il y a une coproduction entre deux compagnies. Donc, une première compagnie, la compagnie Iéna que tu as créée.
Voilà.
Il y a...
C'était en 2013. Ben, en fait, au départ, c'était vraiment l'envie de monter Burnout. C'est la rencontre de ce texte, en fait, qui fait que d'un coup, il faut quelqu'un pour le porter. Il faut une compagnie pour porter le projet. Donc, c'est vraiment l'acte fondateur de la compagnie, en fait, Burnout. Donc, c'est chouette, c'est important pour nous, vraiment, de continuer à jouer cette pièce. Et du coup, on l'a créé le temps de production, de trouver des partenaires, des dates, tout ça. On a créé Burnout en janvier 2016 dans le Val-de-Nièvre à Berthecourt-les-Dames. Et depuis, on a joué quelques fois.
Un petit peu partout.
Surtout dans le coin.
On aimerait. L'objectif étant de sortir un petit peu du réseau habituel, on va dire, des salles de la métropole ou des salles de département, voire région. Enfin, maintenant, avec la grande région, on aimerait aussi aller taper aux portes
dans le nord,
un petit peu plus haut, dans le nord. Et puis, on se dit aussi que voilà, Paris, en région parisienne, ce thème, cette pièce, elle parlerait aussi à beaucoup, malheureusement, mais elle parlerait beaucoup.
Oui, d'autant qu'on avait présenté une petite maquette de 12 minutes au Lavoir Moderne sur un festival. Donc c'était juste pour donner l'idée de l'esprit de la pièce et que clairement, ça parle à... Enfin, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'universel dans cette écriture. Ce qui tombe bien, puisque c'est quand même le but du théâtre, de partir de petites histoires et de faire de l'universel. Du coup, on est en plein dedans, quoi. Et on a vraiment envie de le défendre. Et on a eu l'occasion aussi d'aller jouer à la Villa Médici, à Aubervilliers, parce que la compagnie des corps sonores a beaucoup soutenu la création sonore. Et puis au festival Miresson à Fabrezan, c'est un festival d'électro-acoustique, et vu que la création sonore est très particulière, le spectacle y a trouvé sa place, quoi.
Alors, vous avez fait appel donc à Karine pour la mise en scène. Pourquoi avoir... C'était un choix, t'avais déjà vu quelque chose qu'elle avait mis en scène
et Oui. J'avais vu, j'en avais vu plusieurs, puis en plus on a travaillé ensemble sur le même spectacle il y a quelques années, donc je la connaissais un petit peu, et puis j'avais vu son Don Juan, que j'avais beaucoup aimé, et en fait je suis allée la voir parce que, en fait, quand j'ai eu envie de monter ce texte, je voulais vraiment le défendre en tant que comédienne.
Et pas en tant que metteur en scène, tu fais les deux ?
Oui, je fais les deux. D'ailleurs, je mettrai en scène la prochaine création de la compagnie. Mais là, l'envie était vraiment de faire un travail physique sur ce personnage et sur ce syndrome d'épuisement professionnel. Donc du coup, pour avoir du recul et pour que ce soit intéressant, je pense que c'est très compliqué d'être à la fois au plateau et en face. Oui. Donc j'ai préféré demander à quelqu'un d'autre de le faire.
Et la coproduction, organisation en fait avec la compagnie Legos, qui est la compagnie de Karine. Comment
mutualisation.
Oui, mutualisation de compagnie. Ouais.
Elle nous a fait aussi bénéficier en fait clairement de son expérience, de son réseau, Oui. De,
oui, bah, la communauté.
De la relation avec les partenaires, les différents coproducteurs éventuels. Ouais. Ça a été un gros soutien quoi, Karine, dans ce.
Oui, oui, complètement.
Dans ce projet.
Complètement. Bah, de toute façon, on est dans un moment où, pour beaucoup de choses, la mutualisation est une solution intéressante. Mmh. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Tiffany, qui est notre administratrice. Mais en fait, Tiffany, elle est auto-entrepreneur et on est plusieurs compagnies à faire appel à ses services. Et du coup, on ne pourrait pas seul assurer un salaire d'administratrice. Mais là, d'un coup, en mutualisant, il y a des choses qui deviennent possibles.
Oui, vous êtes vraiment plusieurs à...
Ah oui, on est vraiment quelques-uns, ouais. À Amiens, à Lille, à Paris, il y en a qui sont à cheval entre eux. Oui, oui, on est vraiment plusieurs à faire appel à ces services, ouais.
À bénéficier de ces services.
Tout à
tellement
fait.
Tellement elle fait du bon travail.
Ouais,
c'est une perle. C'est vrai qu'on en parlait juste avant, elle fait du bon travail. L'envie de créer une pièce comme ça, elle t'est venue en lisant le texte ou...
Ouais, en fait, le texte, bon, alors à la lecture, il peut paraître un peu indigeste. ce qui est un euphémisme, je pense.
Non, n'hésitez pas à venir sur ça.
Non, mais c'est pour ça que la mise en scène est aussi quelque chose de très intéressant. C'est comment est-ce qu'un truc qui a l'air comme ça, compact, à la première lecture, on est essoufflé vraiment à la fin. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de didascalie.
Ouais. C'est de la liste.
Il
n'y
a aucune
beaucoup.
Indication. Voilà, c'est un travail de liste, de slogan, mais en même temps, qui répondent au fonctionnement d'une époque. On fonctionne beaucoup aujourd'hui sur la liste,
avec
sur
des
le
listes,
slogan.
Oui. Des listes, des checks. Des...
C'est ça. Et du coup, d'un coup, t'as une pièce où tu retrouves ce rythme-là, et à la lecture, c'est fatigant, certes, mais en même temps, je sentais bien, moi, qu'il y avait un enjeu, il y avait quelque chose que j'avais envie de défendre dans ce questionnement qui est jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le travail? Et pourquoi travaille-t-on? Oui. Qu'est-ce qu'on attend du travail, de la valeur travail?
Et puis l'écriture répond directement au sujet, c'est-à-dire qu'il y a un principe de saturation là-dedans, dans le fait de travailler, de s'oublier soi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle ne diabolise pas le travail. Mmh. Elle interroge vraiment le rapport du salarié, du travailleur, son rapport au travail, jusqu'où il est prêt à aller, qu'est-ce qu'il est prêt à faire. Et du coup, cette écriture, cette avalanche de mots comme ça... me fait penser à on a la tête dans le guidon et puis on est pris dans une spirale et on n'arrive plus à s'en sortir parce que
tout va trop vite
et c'est un engrenage
plus,
et voilà
complètement et c'est ça qui est intéressant à un moment dans l'acte de mettre en scène et de jouer, c'est comment est-ce qu'on fait que ce qui pourrait être acheté et lu chez soi tranquille devient intéressant, fait spectacle et voilà, et donné à voir quoi.
Il y a aussi, enfin tout à l'heure tu parlais du son de la, donc
oui.
Il y a un troisième personnage sonore.
Oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a l'évalué, l'évaluateur et le son.
C'est ça.
Qui donc ce travail a été réalisé par Marie-Lise Polchopek, qui est une plasticienne sonore. Et en gros voilà, ce troisième personnage c'est une voix, donc ça peut être plusieurs voix, ça peut être la voix de l'autorité, du pouvoir, une voix intérieure aussi des deux personnages.
Ouais.
Et elle a mis en place un dispositif sonore. Donc, elle en parlerait beaucoup mieux.
C'est compliqué à expliquer un dispositif.
En gros,
En fait, il faut venir vendredi.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Mais ça rend la pièce très immersive, en fait.
Ouais, c'est ça. Ça met vraiment le spectateur au niveau de l'évalué, de l'évaluateur. Quoi. On parle de l'humain.
Sans pour autant être agressif.
Ben, le but du jeu, justement, c'est de saturer les personnages sans pour autant saturer le public. Mmh. Donc, c'est là que se situe tout le pari, on va dire. Donc, évidemment, sur ce genre de texte, on va chercher tout de suite les soupapes, les endroits où on peut rire, où on peut se détendre, où, parce que sinon, c'est pas possible, en fait. Sinon,
c'est de la torture, quoi, sinon.
Ben ouais, c'est pas possible.
On a besoin on a recours aussi.
Travail, torture.
Ouais. Mais on a aussi créé ces petits moments avec Karine dans le jeu aussi, ces petits moments de rire, d'humour, de distance si nécessaire
recul,
à un moment.
Oui,
quoi.
C'est ça, parce que le recul c'est important, notamment sur ce genre de sujet. Sinon, sinon c'est pas possible. Et c'est aussi pour ça qu'il y a le son en troisième personnage, mm-hmm. c'est qu'à un moment donné, il y a que deux voix, et c'est un ping-pong entre deux voix.
Entre vous.
Et d'un coup, il paraissait évident à Karine que c'était intéressant qu'il y ait une troisième voix, et c'est là qu'on a fait appel à Marie-Lys Polchlopek, alias Marie Popek, qui voilà, a créé ce troisième personnage sonore qui entre en résonance et en communication, on va dire, avec l'évalué, l'évaluateur.
Vous la... Alors, j'ai vu que tu avais dansé dans notre fognette.
Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça que j'ai connu
Marie
Popek.
C'est comme ça que tu l'as
connue,
en fait.
Ouais. Et en fait, avant, c'était pour une petite scène, il lui manquait deux danseuses, et puis ouais. un copain qui m'en parle, bon, je suis dispo, donc ok. Et puis, on a eu un échange hyper intéressant, et c'est là qu'elle m'a expliqué donc, qu'elle était plasticienne sonore. J'ai été assez fascinée, en fait, par sa démarche, elle créait des grands arbres, des forêts d'écouteurs, et j'en ai vu, j'ai vu une de ses expos, c'était à la fac à l'époque, à la fac d'art. Et effectivement, quand Karine m'a dit qu'elle envisageait un troisième personnage sonore, je lui ai dit, bon, bah, il faut absolument que je te présente quelqu'un. Et puis, ça s'est fait comme ça, tout seul.
Tout à l'heure, vous me parliez de l'attachement à l'écriture contemporaine.
Oui, un théâtre actuel.
Bah, voilà, on part du principe que le théâtre est le reflet d'une époque et que... les écritures contemporaines sont aussi le reflet de cette époque et c'est important en fait d'avoir des auteurs qui mettent des mots sur des situations, des réalités d'aujourd'hui en fait, avec des mots aussi d'aujourd'hui et qu'on aime aussi cette idée de se rattacher à des choses concrètes. Donc, avec la fantaisie, la magie, tout ce que le théâtre peut amener aussi derrière, mais que voilà, il y a un rapport direct avec une époque et aussi... un principe d'identification nécessaire pour pouvoir être plongé dans l'histoire, trouver des résonances avec nos propres vies, nos propres existences, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui nous semble vraiment vital. Après, enfin, on n'a rien contre le classique, c'est très bien, bien, faut en faire. Mais voilà, nous, ce qu'on a envie de défendre, c'est ça, quoi.
Enfin, le classique était aussi finalement une réalité d'une leur époque.
Oui, tout bien à sûr. Fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que la réalité d'une époque se retrouve dans une autre époque au final. Hein. Souvent, on se dit « Ah ouais, mais finalement, le texte, il a été écrit il y a longtemps, mais il résonne encore. » Après, c'est vrai que nous, dans notre démarche, ce qui nous intéresse, c'est de parler du texte d'aujourd'hui, qui parle d'aujourd'hui et qui très certainement résonnera encore longtemps.
Il y a des débats avec le public que vous instaurez après
Alors, c'est arrivé plusieurs fois. Même parfois, en fait, le débat se fait naturellement. Je sais pas ce qu'on veut dire. Même s'il n'est pas amené de manière un petit peu officielle, bon, pas tout le monde évidemment, mais quand même beaucoup de spectateurs restent.
Ouais.
Il y a vraiment un besoin de parler de ça. Je souffre au travail, toi aussi, viens, on en parle et ça nous fait du bien. Voilà. Grossièrement, c'est un peu ça l'idée, quoi. On n'a pas cette prétention de changer radicalement la vie. Mais juste, si on peut au moins en parler et que ça nous fasse du bien, ce principe-là qui est aussi essentiel au théâtre, de se sentir...
Effectivement, il y a la part informelle. Et puis, on a eu l'occasion de le faire de façon un petit peu formelle, hein, la fameuse rencontre avec l'équipe à l'issue du spectacle. Et notamment une fois au Crous qui a été vraiment instructive parce qu'il y avait un médecin du travail, il y avait le docteur Herman de la médecine préventive et du coup qui apportait un contexte aussi à ces parcours de personnages, c'est-à-dire l'évolution de notre rapport au travail. Et d'ailleurs, cette discussion-là était très intéressante parce qu'on avait vraiment un public très hétéroclite. Et
oui,
chacun se rendait compte que finalement, on a les mêmes questions, quoi. Et c'était assez magique. On a même dû interrompre un moment, dire « Bon, allez, on va aller boire un coup maintenant », parce qu'on aurait pu y rester, je pense, encore 2-3 heures facile. C'était vraiment bien.
Et c'est en ça que moi, par exemple, mes réponses varient, mais je me demande souvent « Est-ce que le théâtre est-il nécessaire ? Quelle est la fonction du théâtre ? Est-ce que tout ça ?» Mais j'aime bien, j'ai plein toujours des avis dessus, mais j'aime bien quand même réinterroger ça, quoi. Et ça, par exemple, c'est un exemple pour moi important de l'importance de l'exemple, enfin, un exemple important de l'importance, super. Mais voilà, pour moi, ça justifie l'existence, l'importance de l'existence du théâtre, quoi. Juste ce fait de, voilà.
De créer de l'échange.
Créer de l'échange, créer de la parole, de stimuler la réflexion, de se dire, ok, je vais prendre un peu de recul aussi sur moi, bon là, en l'occurrence, avec cette pièce, mon rapport au travail. Comment est-ce que je vais faire attention à ma santé? Comment est-ce que je vais faire attention à celle de mes proches? Comment est-ce que je vais pouvoir. Bon, après, la pièce, comme tu disais, l'écriture. Et particulière, elle, en ce sens aussi où elle est très didactique, elle explique beaucoup, elle met voilà, elle... et il y a par exemple dans la pièce il y a un questionnaire qui permet d'évaluer le burn-out, qui est un vrai questionnaire qu'on utilise
réellement,
oui, oui. Qui est le vrai questionnaire utilisé ça pour diagnostiquer le burn-out.
Ça peut paraître hallucinant quand on le lit, on se dit c'est du théâtre, mais c'est vrai en
et
fait.
Et d'un coup il y a l'attention et tu vois qu'il ok, alors ça oui,
ça, ça oui, non, ça, ça oui. Les gens répondent aux questionnaires.
Ça résonne très ça résonne même parfois plus que pour nous, parce que nous, on n'a pas de questionnaire d'évaluation. Notre évaluation, c'est la rencontre avec le public. Mais d'un coup, tu te retrouves face à des gens qui remplissent vraiment ces questionnaires-là, qui eux, ont vraiment un entretien annuel, et tu sens qu'il y a des choses qui les font rire, mais parce qu'ils les reconnaissent. Et j'adore ça, vraiment. C'est une super sensation quand tu es au plateau de te sentir vraiment connecté à la réalité, finalement, des gens aussi. Même si, encore une fois, on est au théâtre et que la vérité est quand même. Enfin, la vérité, la réalité est habillée, quoi.
La vérité est ailleurs.
L'auteur a vécu un burn-out
Pas du tout, elle a été intéressée par un fait divers. Je me souviendrai jamais, décidément, si c'était en Turquie ou en Grèce.
En Grèce.
Ouais, c'est en Grèce. Ouais. Super, merci. Et en fait, voilà, un jour dans le journal, on parle d'une femme qui a été retrouvée quasi morte dans sa voiture, burn-out, sous-alimentée. Donc les gens s'indignent. Vous vous rendez compte, les patrons, mais c'est grave, machin. Et quelques jours après, on apprend qu'elle est son propre patron. Et à partir de là, l'auteur se dit, non mais attends, comment on peut s'infliger ça à soi-même? Et c'est là qu'elle commence à essayer de comprendre quels sont les ressorts, les mécanismes qui emmènent au burn-out. Oui. Et elle écrit aussi ce texte en réponse à un certain discours qui voulait qu'on travaille plus pour gagner plus, puisque le personnage de l'évalué, son leitmotiv, c'est travailler plus. Travailler
donc
plus.
Le tien.
Voilà, le mien.
Toujours dans ton personnage, celui de l'évalué, il y a aussi les fameuses barquettes Fleury Michon,
oui.
Où en fait, c'est son beau-frère, en fait, un membre de sa famille qui, chaque semaine, établit un menu. Et c'est toujours le même, et c'est des barquettes Fleury Michon. Comme ça, il se prend pas la tête, il fait ses courses en un quart d'heure, et il a pas à cuisiner le reste de la semaine pour gagner du temps. Et ça, plus ça, voilà, tous ces ingrédients réunis, elle s'est dit, waouh, il y a un sujet, quoi.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on suit des personnages qui sont dans une course vers quelque chose. Et alors, l'évaluateur... Lui, il est quand même dans un truc où il veut un peu de confort matériel, quoi. Mais il le dit. L'évaluée, elle, on ne comprend pas. Tout ce qu'elle veut, c'est travailler plus, c'est gagner du temps. Et c'est sa quête permanente. On sent qu'elle n'a pas de vie privée, elle n'a pas de vie sociale. C'est travailler. Si elle pouvait être le travail à elle toute seule, elle deviendrait le travail.
C'est le rapport à la performance aussi. C'est un peu le culte de la performance, de toujours faire mieux, de toujours faire plus.
Ouais.
Il y a un court passage, un court extrait dans la pièce où on imagine...
On a un indice, ouais.
Voilà, avec la relation avec son père qui lui dit « T'as eu 17, mais t'es médiocre, en fait. Il faut avoir 20 pour être exceptionnel. »
Ouais, le personnage se pousse toujours
C'est ça, toujours plus. Il faut être exceptionnel. Supérieur, ça ne suffit pas. Remarquable, ça ne suffit pas. Il faut être exceptionnel.
Julien, comment t'es arrivé dans le projet, toi?
En couchant. En fait, on s'est rencontrés donc avec Mavicana à peu près à la même période où, t'as choisi de monter cette pièce. Et puis, je crois que tu m'as vu jouer.
Bah oui, je t'avais vu jouer quand même avant.
Je savais ce que tu donnais, donc bon.
Bah ouais. Non, et puis ça me paraissait évident que l'évaluateur, si tu l'acceptais, ça pouvait être toi, quoi. Donc je lui posé la question.
Après, voilà, en fait, à la lecture, je me suis dit, mais elle est pas bien, en fait.
Pourquoi elle veut faire ça?
comment faire où se situe la théâtralité là-dedans et c'est bien, en fait, de partir toujours d'une matière... En fait, c'est stimulant parce que on est obligé de rentrer dans un travail de recherche, de créativité. Enfin, parce que la matière brute en elle-même, waouh, c'est costaud quoi. Enfin, c'est pas.
Elle est un peu indigeste quoi.
Elle est un petit peu. Ouais, on va pas trop le redire parce que ça va pas. Ça va
pas. Mais Karine a fait une super mise en scène.
Puis en plus, à force de dire indigeste, ça fait comme si le texte d'Alexandra Baddeler était. Non. Le texte est génial, mais c'est vrai qu'il est déstabilisant parce que il y a pas de phrase construite comme on peut en avoir. Enfin, c'est du théâtre contemporain, c'est une forme particulière. Là, en l'occurrence, d'avoir fait ce choix de la liste et du slogan, et ça peut faire peur, clairement. D'autant qu'il n'y a pas de didascalie, il n'y a pas d'indication, donc il faut projeter son imaginaire tout de suite à la lecture, inventer les respirations dans sa tête, faut le rythmer dans sa tête, quoi. Et si on n'y arrive pas, effectivement, ça peut paraître un gros bloc.
C'est un super défi pour un comédien.
Ah ouais, c'est génial.
C'est vraiment quelque chose de ok, maintenant vas-y, amuse-toi, c'est aimer.
Ah ouais, il y a un boulevard.
Mais c'est un super
défi. Il y a une vraie liberté, du coup, aussi que l'auteur donne au metteur en scène et au comédien. Pour créer avec cette matière qui est, on ne peut plus limpide, hein, au final, là, à force de le jouer, qu'on le connaît, tout ça, en fait, oui, c'est carrément évident, quoi. Et d'ailleurs, pour le spectateur, c'est évident, puis des fois, il y a quand même des gens qui disent, mais comment vous est venue l'idée de monter ce texte? Mais ouais, en fait, il se parle, il se suffit à lui-même, quoi. C'est fort.
Bon.
Et il y a beaucoup de gens, enfin, malheureusement, ouais, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent, quoi.
Ouais.
C'est qui s'y voient avec leur post-it, avec ceci, avec cela. Donc il y a du rire, parfois il y a du rire jaune aussi, il y a un peu du rire de voilà, de
la personne souffle aussi un peu, ouais. Elle aussi. On peut vous donc retrouver ce spectacle vendredi à 20h30 au Centre culturel d'Étouvie.
Tout à fait, au CSC.
Une prochaine date au Théâtre Le Palace à Montataire.
Tout à fait. Alors, c'est en partenariat avec la faïencerie de Creil.
Ouais.
Et en première partie, il y a One, qui a un travail aussi... enfin, un travail autour du travail, qui est un spectacle aussi autour du travail. Là, cette fois-ci, c'est un solo dansé. Et elle a beaucoup travaillé sur les postures qu'on a en société et notamment dans le cadre du travail. Elle part des postures avec un peu de texte et elle agrandit les postures. Enfin, n'hésitez pas à aller voir le teaser, c'est vraiment très drôle, ça a l'air génial.
Ce sera le 30 mars.
Ce sera le 30 mars à Montataire.
À Montataire. Bon, la compagnie crée une nouvelle création.
Tout à
presque
fait.
Presque égale à.
Exactement. Alors cette fois-ci, c'est Julien qui a trouvé le texte. C'est un texte de Jonas Hassen-Kemiri, un auteur suédois.
Tout à fait, un auteur qui a écrit aussi des romans, donc que je vous invite à découvrir, oui. Parce que c'est... Alors toujours, c'est un texte qui date de 2016, donc voilà, toujours dans, comme on disait tout à l'heure, cet attachement à l'écriture contemporaine. C'est un texte sans complaisance, et ça c'est aussi quelque chose qui nous plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne magnifie pas ses personnages. Il y a une espèce de portrait de la société qui est vraiment, qui n'est pas du tout complaisant, qui on peut vraiment encore à nouveau là s'identifier à fond, mais à fond dans des situations des personnages qui sont dans la désillusion, qui font des études mais qui se retrouvent sans boulot, qui des personnages qui sont à la rue, d'autres mecs qui veulent changer le système mais qui n'y arrivent pas, d'autres qui veulent aller faire une ferme bio mais qui en fait sont incapables de foutre les mains dans la terre plus de 20 minutes. Enfin voilà, toutes ces choses, et notamment aussi un principe d'écriture que je trouve complètement génial, c'est-à-dire que t'as le personnage, donc t'as des personnages qui dialoguent et t'as aussi ce que le personnage aimerait dire mais qu'il ne dit pas. Ce qui peut, enfin ce qui personnellement moi m'arrive, mais qui je pense nous arrive à tous. Là, si j'avais su, ou l'effet d'ascenseur un peu. Ah, j'aurais dû dire ça. Vous voyez un peu l'effet d'escalier ou l'effet d'ascenseur. Ouais. À chaque fois, peut-être qu'en sortant de cette émission, on va en avoir un et on se dira ah, zut, on a oublié de parler de ça, on aurait dû parler de ça. Ou même parfois en direct, mais j'aimerais tellement lui dire ceci, cela. Ah, si j'avais le courage de lui dire, ou juste si j'avais les mots pour lui dire. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est. Bah, ça, 'fin, moi, ça me parle beaucoup, quoi.
Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tous ces personnages, ils se sont inscrits en faux beaucoup sur le modèle de leurs parents. Ils se sont dit que eux ne seraient pas des victimes du capitalisme, que eux ne vivraient pas que pour l'argent. Et puis au final, ils sont comme tout le monde, ils doivent payer le loyer, la bouffe, tout ça. Et il y a ce truc du choix de vie, de comment on s'écarte de son choix de vie, comment on se voit en train de s'écarter de son choix de vie, comment est-ce qu'on essaie de redresser la barre, où se trouve le compromis avec soi-même. Et dans l'écriture de Kemiri, hein, que ce soit ses romans ou ses pièces, il y a quand même toujours cette histoire de la case. On nous met dans des cases, on se met dans des cases. Quel est notre rapport à notre case? Est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on peut en sortir? Comment on fait le regard de l'autre? Enfin, c'est une écriture vraiment puissante, vraiment. C'est super. On a hâte.
On a hâte et on peut retrouver donc une étape de travail au centre culturel Léo Lagrange le
8 mars, tout à fait. Donc au plateau, il y aura donc Julien Gros, Omar Fella, Fanny Balédan et Isabella Romanich Christensen, parce qu'on aime les noms faciles. et puis cette fois-ci, donc je serai à la mise en scène. Et donc, il y a une magnifique scénographie d'Alexandrine Rollin qui est en cours de construction, des lumières de Miguel Acoulon, des costumes de Bertrand Sachi.
Voilà. Eh ben...
Et toujours Tiff, la super administratrice.
La multicasquette.
Une belle équipe.
Bon, on l'embrasse. Ouais. Merci à tous les deux. Petit agenda de la semaine. Demain, découvrez l'avant-première de Ma vie avec James Dean de Dominique Choisy à 20h30 au cinéma Saint-Leu d'Amiens. Film d'un réalisateur picard et amiénois. Vendredi à 19h30, la galerie de l'AAC Tennis vous propose le vernissage de sa nouvelle exposition. Sophie Ansart et Virginie Valois seront présentes pour vous accueillir. Mardi 15 janvier à 19h, la Lune des Pirates fait sa présentation de trimestre. Alors, si vous avez envie, si une de vos résolutions pour la bonne année est de faire plus de concerts de musique actuelle, c'est l'occasion d'aller voir la présentation pour savoir qu'est-ce que vous allez choisir. L'émission touche à sa fin, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et surtout une bonne année puisque c'est la première finalement de reprise, donc je ne vous l'avais pas souhaité. Bonne année à tous.
Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Au bonheur ! À l'assassin ! Au meurtrier ! Justice, justice ! Je suis perdu ! Je suis assassiné !
En aparté, l'émission culturelle et artistique sur Radio Campus Amiens.